Le mot seul de jardin suffit à nous faire rêver. Est-il une image plus évocatrice de l'accord entre l'homme et la nature? Le thème du jardin plonge loin ses racines dans les mythes et les traditions religieuses. Au tout début, est le jardin paradisiaque. On va essayer de faire les choses en images. Voilà. Une reproduction de Jardin de l'Éden, donc au tout début, le jardin paradisiaque dans lequel l'homme innocent vit en paix, sans souci nourricier et en parfaite entente avec le reste de la création. Jardin clos, protégé de murailles, qui reproduit dans une parfaite analogie l'harmonie cosmique. Jardin des délices, où tout est saveur et douceur, abondance et satisfaction. La description biblique s'enracine elle-même dans une mythologie sumérienne plus ancienne et entre en résonance avec bien d'autres légendes et visions enchanteresses tout aussi immémoriales. Le jardin apparaît dans les mythes fondateurs de la plupart des civilisations, ces récits qui plongent dans le rêve et l'inconscient et formulent des réponses au mystère des origines en empruntant les voies du surnaturel. Mais le mythe rencontre aussi l'histoire, et notre imaginaire se nourrit de nouvelles évocations. À l'Éden et au jardin d'Arcadie, au jardin des Hespérides et à celui d'Alcinos décrit par Homère, répondent les jardins suspendus de Babylone, les jardins moghols du Cachemire, l'Alhambra de Grenade, dont vous avez ici une photographie, ou les jardins safavites d'Iran. Lieu essentiel, à la jonction du ciel et des profondeurs terrestres, hors du temps et pourtant éphémère, car soumis au rythme des saisons et des cycles naturels, le jardin est à lui seul un résumé du monde. C'est pourquoi les mythes représentent souvent en son centre. C'est très petit, j'en suis désolée, c'est une miniature persane, donc elle est elle-même un peu miniature. Mais si je l'agrandis, elle va devenir très floue, donc faites peut-être un petit effort pour la voir. Donc, je me servais de cette image justement pour montrer que très souvent, on représente au centre du bassin une croisée, et ce qui montre que le jardin est autant le miroir du monde que son ombilique, auquel aboutissent quatre fleuves définissant les quatre directions cardinales. En lui, tout s'accorde et se rejoint. Le végétal et le minéral, le naturel et l'artificiel y coexistent. L'opposition de la nature et de la culture et des valeurs contradictoires qu'elles incarnent, désordre et ordre, spontanéité et réflexion, y trouve un point d'équilibre. Et l'on comprend que les artistes et les hommes de lettres, ici et ailleurs, aujourd'hui et hier, en aient fait un thème privilégié d'inspiration. Qu'est-ce qu'au fond qu'un jardin? Dans les dictionnaires, il est défini comme un terrain délimité et généralement clos où l'on cultive des végétaux utiles ou d'agrément. Et il se trouve immédiatement classé en plusieurs genres, selon le type de plante qui y pousse, jardin potager, jardin fruitier, jardin d'herbe, jardin de simple, selon sa morphologie, jardin suspendu par exemple, selon son style, jardin baroque ou pittoresque, selon son origine géographique, jardin anglais ou japonais, selon sa finalité, jardin de rapport ou botanique, selon sa destination, jardin privé ou public. Dans des termes plus abstraits, on pourrait dire que le jardin, c'est la mise en scène dans un espace délimité d'une vision paysagère exprimant, sous une forme idéalisée, les rapports de l'homme et de la nature. De cette définition, on peut tirer, me semble-t-il, deux choses. D'une part, le fait que le jardin ressorti de ce qu'on peut appeler, en suivant d'ailleurs la suggestion de théoriciens de la Renaissance, une troisième nature. Eux-mêmes proposaient cette expression en référence à Cicéron, qui avait distingué la nature première et la deuxième nature, opposant par là la nature sauvage ou vierge à la nature modifiée par l'homme pour être rendue plus habitable. Cicéron parlait surtout au sens agricole des choses. Alors parler de troisième nature, ça signifierait que l'on est en l'occurrence du côté d'une recomposition limitée et déterminée par le biais de l'artifice, d'une nature conformément aux aspirations esthétiques de l'homme. On aurait affaire donc ici à une modification non à des fins de subsistance, mais à une modification dont la finalité principale est de provoquer un plaisir esthétique. Deuxième conséquence ou deuxième trait que je voudrais retenir, l'idée que tout jardin est une création historique, dans la mesure où il rend compte de la configuration des rapports de l'homme et de la nature à une époque déterminée. Aussi, en dépit de l'existence millénaire du jardin et de sa symbolisation non moins ancienne à laquelle je faisais référence en commençant, n'est-il pas pour lui d'apparence immuable ? Non pas tant parce que, au fil des jours, le jardin adopte tel ou tel aspect, je disais tout à l'heure qu'il est éminemment éphémère, mais parce qu'il est une réalisation qui, dans le temps, prend des figures successives, étant donné qu'il incarne, selon les époques, des valeurs elles-mêmes variables. En ce sens, parler de l'art des jardins, comme on m'invite à le faire aujourd'hui, revient inévitablement à se situer dans une histoire des jardins, elle-même corrélative d'une histoire culturelle plus large. Mais c'est aussi user d'une expression quasi redondante, tant il est vrai que le jardin est, par essence, une forme de création artistique. Non parce que, simplement, c'est une création artificieuse qui met en jeu l'artifice, mais parce qu'elle est guidée par des impératifs esthétiques. Évidemment, je ne peux pas aujourd'hui vous parler de l'art des jardins en général, il me faudrait la journée, voire la semaine et encore. Hein. Et donc cela serait probablement les uns et les autres, c'est un sujet extrêmement vaste. Et je ne voulais pas non plus passer en revue des styles de jardins, ce qui aurait été lassant et peu utile, je pense, pour vous. Il a donc fallu que j'opère une sélection dans une histoire qui est très riche, dans un très vaste répertoire de références, et essayer d'adopter un angle d'attaque un peu plus précis. Il y a deux convictions qui vont guider, ou qui ont guidé mes choix et qui vont guider cette communication. D'une part, l'idée que le jardin est toujours établi par rapport à une référence artistique, en dialogue avec elle. Les grands jardins sont souvent des créations d'artistes, peintres, architectes, sculpteurs. C'est le cas, ce fut le cas autrefois, c'est encore le cas aujourd'hui. La deuxième chose que j'aimerais mettre en évidence, ce qui a, comme je le disais, guidé cette sélection et cette réflexion, c'est le fait que la création des jardins n'est pas quelque chose de périphérique ou de mineur. On peut avoir l'impression que c'est une thématique, au fond, qui n'est pas très centrale. Je poserai plutôt l'idée, et je la soutiens, que l'art des jardins, c'est peut-être ce qui concrétise de la manière la plus manifeste l'idéal esthétique d'une époque. Alors, je me propose ici de jouer un peu sur les mots, de jouer sur l'expression. Art des jardins va se transformer en art et jardin. Et les deux moments historiques que j'ai sélectionnés, dont je désire vous parler aujourd'hui, qui correspondent à deux moments historiques clés dans cette histoire des jardins, deux moments de transformation, de redéfinition tout à fait importants, correspondent aussi, nous le verrons, à deux formes de dialogue avec des paradigmes artistiques, avec des modèles artistiques. Donc d'une part, nous parlerons aujourd'hui de la naissance de l'art des jardins à la Renaissance, et vous verrez que à ce moment-là, le dialogue qui est engagé, c'est un dialogue entre le jardin et un modèle architectural. Voilà le premier paradigme, donc premier modèle architectural. Le deuxième moment que j'ai sélectionné, c'est le XVIIIe siècle, avec le jardin paysager, où là, on voit s'instaurer un jeu entre jardin et modèle pictural. Donc d'un côté l'architecture, de l'autre la peinture, et vous allez voir comment le jardin se définit très étroitement dans un dialogue avec des modèles artistiques. Alors on va donc commencer avec la Renaissance. Et 2 secondes pour me mettre sur le dossier qui correspond. Naissance de l'art des jardins à la Renaissance. Alors c'est toujours difficile de parler de Renaissance dans la mesure d'une part où la Renaissance n'a pas eu lieu partout en Europe au même rythme, d'autre part parce que l'idée même de Renaissance c'est en grande partie le fruit d'une illusion rétrospective, une sorte de conception de l'histoire héroïque, rétrospective, qui a conduit les acteurs même de ce temps à se penser comme inaugurant un temps nouveau en référence à l'Antiquité. Néanmoins, je conserve le terme lui-même et en l'occurrence, puisque nous parlons des jardins ici, il est tout à fait indiscutable qu'il y a non seulement... Alors, je vais situer plus précisément les choses dans le temps. Au XVe siècle, en Italie, une mutation profonde qui s'opère dans ce registre, et d'autre part, qu'il est tout à fait légitime de parler de Renaissance, dans la mesure où le nouveau jardin qui se définit à ce moment-là peut être entendu comme en filiation avec le jardin antique. Il récupère des idéaux, il récupère des modèles qui viennent très directement de l'Antiquité, du moins des descriptions que l'on peut posséder, que l'on peut lire à l'époque, des jardins de l'Antiquité. Le modèle de la Renaissance, j'ajouterai pour dans ces premières remarques préliminaires, c'est un modèle important parce que c'est un modèle qui, au fond, va perdurer pendant presque 2 siècles. Il va influencer la création des jardins partout en Europe, à peu près jusqu'au XVIIIe siècle, avec évidemment des changements, avec des inflexions qui vont être différentes selon les pays. Mais enfin, grosso modo, c'est un modèle qui va avoir une certaine influence, une certaine durée. Ce qui est intéressant aussi à la Renaissance, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on peut parler de naissance de l'art des jardins aussi, c'est qu'on se trouve face à l'apparition d'une théorie des jardins, c'est-à-dire un effort pour penser la place de l'art des jardins entre la théorie architecturale et une réflexion sur le paysage. Et donc des écrits à ce moment-là qui sont importants. Alors, tout commence à Florence et dans la région de Florence. Une situation qui est dans ce coin d'Italie particulièrement favorable pour des motifs différents. On va retenir des données économiques et financières puisque vous savez peut-être à Florence se développe l'industrie de la laine, l'industrie drapière, il y a un afflux de capitaux, il y a même l'invention du pré-capitalisme. Des banquiers très riches qui se trouvent là et donc on est face à une place qui a une importance tout à fait grande en Europe, à la fois dans la circulation des idées, la circulation des capitaux. Et cette situation-là va favoriser une explosion artistique. Alors une explosion artistique qui ne concerne pas simplement l'art des jardins, qui concerne la sculpture, qui concerne la peinture, qui concerne aussi l'architecture. Et c'est dans ce coin-là d'Italie que, pour la première fois, on voit des artistes recommencer à regarder du côté de l'Antiquité avec le désir d'y récupérer des modèles et de s'en inspirer. Donc ce regard nouveau sur l'Antiquité inspire des créations de tous ordres dans le domaine politique, dans le domaine architectural et aussi dans le domaine artistique. Les jardins sont donc, la création des jardins à cette époque est à comprendre dans ce mouvement lui-même. On crée des jardins dans la campagne environnante, donc aux alentours de Florence. Vous en avez un exemple derrière moi, le célèbre jardin de Pratolino, donc tout près de Florence. Dans cet endroit d'Italie, il existe déjà une relation ville-campagne qui est bien déterminée, hein, qui repose sur la distinction entre la zone urbaine et ce qu'on appelle en italien le contado. Le contado, c'est l'étendue territoriale qui est contrôlée et qui dépend d'une ville, un espace rural, si vous voulez, sur lequel la ville exerce son pouvoir public essentiellement à des fins économiques. Donc d'une part il y a cette structure et puis d'autre part on voit ressurgir avec la construction de maisons de campagne qu'on appelle villa, on récupère le mot latin, hein, la villa, on voit ressurgir l'incarnation d'un mode de vie et d'une certaine manière de jouir de la campagne. Alors bien sûr là derrière il y a le modèle médiéval de la campagne avec ses occupations nobles, la chasse en particulier, mais il y a surtout une réactivation d'un idéal antique, d'un mode de vie noble, conformément à l'otium des Latins, où là on s'inspire plutôt des modèles que l'on va trouver dans la littérature latine, Pline et Cicéron en particulier. Les hommes de pouvoir, les gens riches, se font donc construire des villas pour fuir l'agitation de la ville, pour tenter de retrouver un idéal de réflexion sur soi-même à l'abri des tracas. Il y a une villa qui est particulièrement célèbre, je ne peux pas vous montrer son jardin parce qu'il n'est pas visible et je n'ai de toute façon pas de document iconographique. Une villa qui est particulièrement célèbre, c'est celle que Côme de Médicis fait construire aux environs de Florence pour y accueillir la première académie qui réunit des hommes de lettres et des philosophes, puisqu'on retraduit Platon à ce moment-là et on vient discuter dans ce lieu. Alors on sait qu'il y a un jardin qui a été dessiné et élaboré à l'instigation de Côme de Médicis, qui fait appel à un sculpteur connu, et il demande à ce qu'il y ait une terrasse dans le prolongement de sa villa, pour qu'on puisse dominer la ville de Florence. Ces initiatives, elles s'inscrivent dans un cadre un peu plus large, qui est celui d'une réflexion nouvelle sur l'architecture. L'architecture, à Florence, au XVe siècle, elle est l'objet de nombreuses innovations, en particulier, évidemment, d'une redécouverte des modèles antiques. À l'époque, si vous voulez, on est très préoccupé de l'idéal civique qui peut être véhiculé par l'architecture et on commence à avoir des préoccupations urbanistiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'un monument peut s'inscrire dans une ville, comment est-ce qu'on peut dessiner une ville de manière à rendre compte d'un état social harmonieux. On écrit beaucoup de traités d'architecture, à l'imitation de traités antiques qui existent. Et il y en a un parmi d'autres qui est très important, c'est le traité d'un grand humaniste qui s'appelle Alberti, qui est lui-même originaire de la région de Florence. En latin, le titre est celui-ci, De re aedificatoria. Vous avez d'ailleurs des citations dans le recueil de citations qu'on vous a fait passer. L'architecture et art de bien bâtir, ça c'est la traduction ancienne en français de ce texte d'Alberti qui date de 1450 environ. Et alors Alberti est très important pour le sujet qui nous intéresse parce que c'est justement un des premiers à traiter des villas et à essayer de penser leur situation non seulement à l'intérieur d'un paysage mais aussi leur articulation avec un jardin. Alors je vous propose qu'on regarde les deux premières citations et on va voir que beaucoup de choses sont dites déjà là qui vont être très déterminantes dans la manière dont on va concevoir le jardin à la Renaissance. Au demeurant, je veuille, s'il est possible, que les habitations des personnes civiles n'occupent pas la plus fertile place du lieu, mais autrement la plus honorable et de telle assiette que l'on puisse y avoir la fraîcheur du vent, le plaisir du soleil et la récréation de belles vues tout alentour. Vous voyez, penser la situation d'une maison, c'est très important. Et ce qui est important, c'est qu'on voit ici pour Alberti, c'est les critères esthétiques, mais aussi les critères sensoriels qui sont premiers, hein, et qui passent devant les critères économiques. Pas forcément l'endroit le plus fertile, ce qui aurait été le cas de la ferme, par exemple, si on avait l'idée qu'on va exploiter cet endroit-là sur le plan agricole. Mais là, on commence à penser l'intérêt du lieu et son côté agréable sur le plan esthétique. Il faut qu'elle, l'habitation donc, offre à la vue des paysages agréables, des prés fleuris, des campagnes découvertes, des bois qui donnent de l'ombre, de clairs ruisseaux, des rivières aux eaux pures et des lacs pour aller nager. Donc là, c'est tout à fait conforme à un idéal artistique qu'on voit souvent à l'œuvre à la Renaissance, qui est celui de la variété. Il faut qu'il y ait de la variété, il faut qu'il y ait des bois, des campagnes de différentes natures, des fleurs, de l'ouverture, des bois, l'eau sous ses diverses formes, à la fois ce qui court, vous le voyez, et aussi ce qui étale et où on peut aller nager. Deuxième citation, un jardin. Donc il appelle de ses voeux un jardin, dont les formes ressemblent à celles que l'on donne aux maisons, cercle, demi-cercle ou figure du même ordre, entouré de lauriers, de cyprès et de genévriers, avec des arbres plantés en ligne droite et taillés pour former des alignements réguliers. On y mettra des portiques pour donner de l'ombre, des berceaux où grimpe la vigne, disposés sur des colonnes de marbre, des vases et même des statues amusantes, pourvu qu'elles ne soient pas obscènes. On y mettra aussi des plantes rares. Les anciens se servaient de bordures de buis pour écrire leurs noms sur des parterres où ils disposaient aussi des plantes aromatiques. Alors cette citation, elle est très importante parce que tout est dit d'une certaine manière ici et tout est dit dans des termes qui sont à l'époque très novateurs. D'une part, l'insistance sur ce qu'on va appeler la géométrisation du jardin. Alors, les formes du jardin sont pensées sur le modèle architectural. D'autre part, l'insistance sur la présence de l'eau. Alors ça, vous le verrez surtout dans la citation 4, je crois, où on parle, je ne peux pas tout lire avec vous, vous pouvez les lire un petit peu plus tard, des fontaines, l'importance des eaux, la citation 3 et 4. Et d'autre part, il y a une insistance sur la relation avec les anciens, hein, qui joue le rôle d'un modèle. On sort là de la vision médiévale, du jardin clos médiéval, et on veut créer un jardin qui, à la fois, s'intègre dans un paysage et soit ce paysage en réduction, mais surtout se donne comme un miroir de la création architecturale qu'est la villa. Donc les maîtres mots qui le définissent, c'est la géométrisation, c'est l'ordonnancement, c'est-à-dire que l'action artificielle de l'homme doit être tout à fait manifeste. Et cette action artificielle, elle prend une forme architecturale, on se met à sculpter ou on désire sculpter les plantes et les arbustes, c'est-à-dire qu'on essaye d'introduire un jeu assez subtil entre l'art et la nature. Alors je crois que ça vaut la peine de s'arrêter sur cette idée de la géométrisation et d'aller un petit peu plus loin. Quelles sont les caractéristiques principales ? On va dire que les jardins qui vont suivre les injonctions d'Alberti et qui vont se développer en Toscane ensuite, vont être des jardins qui vont faire apparaître donc des caractères à peu près semblables, des plans très dégagés qui doivent être aperçus d'un point de vue, l'idée du point de vue est fondamentale. Il faut qu'il y ait une centralisation du jardin, c'est-à-dire que ces allées doivent être conçues dans le prolongement de la création architecturale elle-même. On essaye de privilégier les surfaces planes, les allées perpendiculaires, de dessiner des compartiments, vous le voyez ici, mais vous allez le voir encore mieux sur l'image suivante, hein, qui est là une photo d'un jardin qui existe encore, d'un bout de jardin qui existe encore. Donc des compartiments quadrangulaires qu'on nomme des parquets ou qu'on nomme aussi des quadrature et dont on veut que les mesures soient proportionnées par rapport à l'ensemble de l'architecture et à l'ensemble du jardin. On recherche aussi une netteté de l'ensemble et on va dire que il y a l'idée que la délectation du jardin, le plaisir qu'on va prendre à être dans ce jardin, va naître en grande partie de la vision d'un ordre qui est imposé à la nature. Alors tout ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi on a à ce moment-là accordé tant d'importance à la géométrisation. Pourquoi c'est apparu comme une valeur à laquelle il fallait se conformer. Pourquoi il y a ce goût des formes régulières, des formes bien dessinées, de cette mise en ordre. Ça, c'est à mettre en relation avec des transformations plus profondes qui affectent le système figuratif dans son ensemble. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'approfondir beaucoup cette idée. Je vais vous donner quelques éléments. Donc, système figuratif, j'entends par là tout ce qui est de l'ordre de la représentation. La peinture, bien évidemment, et plus largement tout ce qui est ressorti à la figuration. Donc, des changements importants dans la conception de la représentation qui renvoie elle-même à des modifications de l'image du monde. Et on peut, à l'origine de tout ça, voir l'émergence d'un modèle scientifique nouveau. Pour le dire très très simplement, on peut dire qu'à la Renaissance, on s'éloigne de l'ancienne physique héritée d'Aristote, qui a continué à être déterminante tout au long du Moyen-Âge, et on commence à penser autrement les phénomènes physiques. Le maître mot à l'époque, c'est la notion de mouvement, la notion d'impulsion, et on peut dire que le modèle privilégié, c'est le modèle mécanique, qui inclut à la fois une promotion de l'observation comme voie privilégiée d'accès à la connaissance, mais aussi qui va de pair avec le développement de l'optique, donc on construit des instruments d'optique, et également la mise en œuvre des principes géométriques. On peut voir les répercussions, si vous voulez, de ces grands changements qui impliquent une autre vision du monde, dans la construction figurative elle-même. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais on va dire que dans l'art pictural lui-même, on voit cette importance de la géométrie et de l'optique. On a affaire à un espace pictural qui se rationalise, qui se géométrise. C'est le moment où on codifie la perspective et on essaye de construire le tableau selon un maillage serré qui inclut une relation au rapport mathématique. Alors, dans le domaine figuratif, il y a cette recherche de l'ordre, de la proportion, de l'harmonie, comme on le dit à l'époque. C'est même ainsi qu'on définit la beauté. La beauté est envisagée en termes mathématiques, comme une proportion harmonieuse. Il n'est donc pas étonnant, si vous voulez, que l'art des jardins lui-même, une des manifestations de cela, apparaissent comme essentiellement soumis à cette esthétique que je pourrais dire une esthétique du mesurable, une esthétique du quantifiable. Il faut dessiner, il faut rationaliser, il faut tracer régulièrement les choses. Avec cette idée, je reprends la définition de la beauté qui est donnée par Alberti, dont on a déjà parlé. Alberti s'appuie d'ailleurs sur les anciens et il dit « la beauté c'est la convenance » et qu'est-ce qu'il entend par cette notion? Eh bien il le définit ainsi « la beauté c'est l'accord ou la conspiration des parties dans une totalité ». C'est-à-dire c'est vraiment une conception mathématique de la beauté. Il y a des rapports de proportionnalité qui définissent un idéal. Alors si je résume un petit peu tout ça, vous me pardonnerez parce que je pense que c'est beaucoup d'informations, mais je vais revenir à des choses plus concrètes avec le jardin. On peut dire qu'il y a d'une part, retenez cette idée-là, la promotion d'une physique du mouvement, l'impetu, comme on le dit à l'époque, mouvement. D'autre part, l'importance de la méthode des géomètres. Il faut mesurer, il faut ordonner. On peut ajouter à ça le grand développement de l'architecture, qui est peut-être l'art qui synthétise un peu tout à l'époque. Et on va voir que l'ordre du jardin lui-même va incarner ces différents aspects. Alors dans le détail, je vais maintenant revenir sur les différents éléments qui composent le jardin et je pense qu'on va les comprendre un petit peu mieux. Je vous demande de regarder la citation 4, toujours chez Alberti. Il parle des singularités du jardin, les singularités qui d'elles-mêmes se font fort estimer, comme promontoire, rocher, motte, tertre, lac, grotte ou caverne, fontaine et autres semblables, auprès desquels vaut mieux bâtir qu'ailleurs, afin que l'édifice en soit digne de plus grande admiration, en particulier s'il est garni de quelques restes d'antiquité. Alors, quels sont les éléments privilégiés du jardin ? D'une part, les eaux. Ça, c'est très important. Les eaux, c'est peut-être l'image de cette nouvelle physique dont on parlait tout à l'heure. Des eaux en mouvement, des eaux en cascade. On invente, ou on répand plutôt, on n'invente pas, parce que dans l'Antiquité, il y en avait déjà. Enfin, il faut qu'il y ait beaucoup de jets d'eau, hein. De l'eau jetée en l'air, propulsée, qui décrivent des colonnes, des paraboles. Je vous montre, je crois que, voilà, ça c'est la Villa d'Est, qui est près de Rome, on quitte la Toscane. Vous voyez les différentes fontaines, il y a un petit montage qui a été fait ici. Donc on essaye de conduire l'eau et également de manifester à travers l'eau ce mouvement dont on parlait. Nous pouvons regarder la description que Montaigne lui-même, alors qui est de notre région, il est allé en Italie, Montaigne, à la fin du XVIe siècle, entre 1579 et 1581. Et Montaigne, il a écrit un journal de son voyage. En partie, c'est sous sa dictée, c'est son secrétaire qui l'a écrit. Et puis Montaigne lui-même a écrit certaines de ses réflexions. Alors Montaigne est quelqu'un qui a visité des jardins connus à l'époque, en particulier Castello et Pratolin, on va regarder très vite ce qu'il en dit. Ailleurs, ils virent, par très plaisante expérience, ce que j'ai remarqué ci-dessus, car se promenant dans le jardin et en regardant les singularités, le jardinier les ayant pour cet effet laissé de compagnie, comme ils furent en certains endroits à contempler certaines figures de marbre, ils sourdissent sous leurs pieds et entre leurs jambes par infinis petits trous des traits d'eau si menus qu'ils étaient quasi invisibles. Et représentant souverainement bien le dégoût, hein, la goutte, c'est pas le dégoût au sens que vous donnez à ce terme aujourd'hui, hein, le dégoût d'une petite pluie, de quoi ils furent tout arrosés par le moyen de quelques ressorts souterrains que le jardinier remuait à plus de 200 pieds de là, avec tel art que de là en or, il faisait hausser et baisser ses élancements d'eau comme il lui plaisait, les courbant et mouvant à la mesure qu'il voulait. Ce même jeu est là en plusieurs lieux. Alors vous voyez l'émerveillement de Montaigne, parce qu'évidemment à l'époque il n'y a rien de semblable en France, qui découvre ces jeux d'eau avec tout le côté ludique, puisqu'à la Renaissance on s'arrangeait pour faire jaillir de l'eau à des endroits imprévus, vous marchiez sur une dalle, surgissait de l'eau, ou bien il y avait une statue qui tout à coup lançait de l'eau. Donc ça c'est un premier élément important, c'est la présence de l'eau, voilà une autre photo de la Villa d'Est. Deuxième élément dans ces jardins, élément de composition, c'est la grotte. Alors la grotte, c'est ce qu'on appelle aussi l'amalthéum. Amalthéum, ça fait un peu précieux, mais en fait c'est parce qu'il y a une nymphe qui s'appelle Amalthée, qui est la nymphe qui a sauvé Zeus enfant, qui était promis donc à la mort. Elle l'a caché dans une grotte et elle lui a donné à boire du lait de chèvre. C'est ainsi que Zeus a pu devenir le dieu des dieux, sauvé par cette nymphe. Alors Cicéron, dans une de ses lettres, parle de son refuge, cette grotte où il aime aller, qui est dans son jardin. Alors à la Renaissance, on s'inspire de cette description de Cicéron et il est de bon ton de construire des grottes dans son jardin. Les grottes, elles sont souvent faites de concrétions, de cristaux, de coquillages, une sorte de stalactites, de stalagmites. C'est, si vous voulez, le lieu des profondeurs, le lieu du mystère. On entre dans la terre, c'est obscur, et donc c'est un lieu un peu de recueillement, un lieu en tout cas où on vient solitaire méditer. Alors il y en a une qui est assez célèbre, c'est la grotte de Pratolino,
Je ne sais pas si nous avons le temps. Je vois que le temps passe. Sinon, vous lirez vous-même peut-être la description par Montaigne lui-même qui raconte la manière dont cette grotte est encroûtée. C'est le mot du XVIe qui est assez savoureux. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est incrustée. Elle est encroûtée de partout, d'une certaine manière, qu'ils disent être apportée de quelques montagnes. Parce que la grotte, il faut que c'est un aspect rugueux, rustique, donc ça ne doit pas être poli. On s'essaye à faire à suggérer cette rusticité. Très souvent, à l'intérieur des grottes, il y a des jeux d'eau. Donc vous voyez derrière cette fontaine, par exemple, il y a toute une série de petits logements qui sont des types de grottes. Troisième élément important, c'est le labyrinthe. Alors, labyrinthe de verdure, là encore, c'est une référence à l'Antiquité, c'est le labyrinthe du Minotaure. Mais c'est aussi une manière d'introduire dans ce jardin très géométrisé une partie ludique, hein, puisque quand on s'aventure dans un labyrinthe, par définition, on ne sait pas où est la sortie, hein, mais juste au ras de ce qu'on est en train de parcourir. Et donc, il y a une forme de jeu. Et puis, c'est peut-être aussi le labyrinthe, la manière de signifier par une sorte de réduction ce qu'est, par essence, le jardin de la Renaissance. C'est-à-dire que c'est l'impression d'une forêt, de quelque chose de touffu, mais qui est très géométrisé, tout à fait taillé régulièrement. Ce sont des hautes haies, hein, qui sont tout à fait taillées par l'homme. Alors, c'est un peu comme s'il y avait le résumé de cette esthétique du jardin renaissant à travers le labyrinthe. Je ne vais pas vous montrer un exemple italien de labyrinthe. Alors ça, c'est une autre photo que je vous avais portée, justement pour ce goût de la rusticité. C'est un exemple connu en Italie. Là, je reviens un peu en arrière. C'est donc pour la grotte. C'est le géant de l'Apennin qui domine une grotte. Alors le jardin auquel je fais allusion pour l'importance des labyrinthes, c'est le grand jardin Renaissance français qui était à Gaillon, un château qui est aujourd'hui détruit. Donc malheureusement, on ne peut plus voir ce jardin. On peut simplement regarder les plans, on en a quelques descriptions. Vous voyez ici l'importance de ces deux labyrinthes. Et puis vous voyez très nettement la manière dont sont répartis les différents carrés, ce qu'on a appelé tout à l'heure des quadratures, à partir de ces deux labyrinthes. Donc vous avez là une vue qui rend très bien compte de cette géométrisation, de cette mise en ordre, de cette esthétique, de la régularité nombrée, normée, mesurée, qui est le principe même du jardin de la Renaissance. Encore un mot sur la Renaissance, pour vous signaler qu'à l'époque, le jardin est aussi un objet de théorisation et qu'il est un thème pour l'imaginaire. Alors, objet de théorisation, c'est vrai qu'on voit apparaître certains ouvrages qui sont consacrés au jardin. Je pense peut-être que vous en avez entendu parler, ou vous avez lu des extraits dans le cadre de vos TPE, des textes d'Olivier de Serres, qui est assez connu. Hein. Ce sont les premiers textes d'agriculture. Mais Olivier de Serres n'est pas seul. Par exemple, il y a un autre Français qui est important, qui est Charles Mollet, qui a vécu de 1550 à 1630 et qui, lui, a écrit peut-être le premier manuel d'horticulture. Ça s'appelait le Théâtre des plants et jardinages, à la fin du XVIe siècle, au tout début du XVIIe. Donc, une littérature, on va dire, technique, hein. Comment bien planter son jardin, quelles plantes faire pousser, dans quel ordre faire les choses. Une littérature aussi descriptive, alors on l'a vu avec Montaigne, mais Montaigne, c'est pas un spécialiste des jardins, mais on comprend bien qu'à la lecture des passages qu'il a consacrés à ce jardin italien, combien à l'époque le jardin pouvait incarner le merveilleux, hein. Et ces jardins italiens sont restés très très célèbres, ils ont hanté l'imaginaire et après ils ont influencé tous les grands jardins des châteaux français en particulier, mais d'autres jardins en Europe. Donc il y a une littérature de description, soit sous forme littéraire, soit sous la forme des plans. Alors justement, ici, le château de Gaillon a été représenté par un architecte français qui s'appelait Androuet du Cerceau, qui a fait des plans des principaux châteaux. Et il a décrit, mais je dirais là par le biais du dessin et non pas par le biais de la littérature, les jardins célèbres. Alors d'un côté, donc, un objet de réflexion, de l'autre, un thème propice au développement de l'imaginaire. Il faut que je vous parle au moins d'une référence qui est très importante à l'époque. C'est un ouvrage un petit peu mystérieux qui s'appelle « Le songe de Polyphile ». Le songe de Polyphile. Dans le titre original, c'est « Hypnerotomachia Polyphilie hein, », qui a été traduit en français ben, « Combat d'amour en songe ». C'est un texte qui date du milieu du XVe siècle, qui a été édité en Italie à la fin du XVe, « Le songe de Polyphile », et qui a été ensuite traduit, en particulier en français, et illustré. Et c'est un des textes qui a fait le plus rêver vos ancêtres et qui a contribué très largement à diffuser un imaginaire du jardin. Alors l'histoire elle-même, elle est un canevas un peu complexe, mais aussi un peu convenu. C'est un héros, Polyphile, qui s'endort, il rêve de celle qu'il aime, qui s'appelle Polia, et qui en fait est un peu indifférente à ses avances. Et dans le texte, on raconte comment il doit parcourir, dans une sorte de voyage initiatique, faire tout un cheminement qui le conduit jusqu'à l'île d'amour, Cythère, où il peut retrouver sa promise, enfin la femme qu'il aime. Alors, donc, il y a tout ce rêve avec des étapes, et durant ce parcours, Polyphile parcourt, croise des forêts, chemine dans des jardins, et l'auteur de ce texte a accordé une importance assez grande à la description de ces jardins, qui ont été ensuite retranscrits par des dessinateurs et des graveurs, puisque ce texte du songe de Polyphile est un texte illustré, même un des textes avec des gravures les plus célèbres du temps. Alors voilà par exemple ces gravures avec des sortes de pergolas, vous le voyez, de charmilles. Voilà les personnages qui cheminent. Une autre référence importante, là je vous laisserai la lire dans le recueil de citations que j'ai communiqué, une référence française, c'est Bernard Palissy, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est quelqu'un qui a fait de la céramique, et qui d'ailleurs s'est ruiné dans cette entreprise-là, essayer de retrouver des secrets de céramiste, mais s'est beaucoup intéressé aussi au jardin. Alors Bernard Palissy a écrit dans son ouvrage principal qui s'appelle « La recette véritable », il a fait toute une description du jardin délectable, et c'est une description d'un jardin imaginaire très longue où il imagine 8 cabinets successifs, alors ce qu'il appelle des cabinets, c'est-à-dire c'est des quadratures à l'intérieur de son jardin. Au centre, il y a un amphithéâtre, ensuite il y a des cabinets, et il décrit un cabinet après l'autre en montrant qu'il y a des ambiances différentes qui sont créées par des mélanges architecturaux et végétaux. Alors tout cela pour vous montrer que le jardin, c'est à la fois un objet de théorisation à l'époque, c'est aussi évidemment une réalisation qui fait rêver, et qui est à la croisée de toutes les créations architecturales et qui incarne particulièrement les idéaux esthétiques de cette époque. Je passe maintenant à ma deuxième référence. Donc, le jardin dit paysager anglais au XVIIIe siècle. Alors, le contraste va être saisissant, on va tout de suite commencer par l'inverse de ce qu'on disait à l'instant, en montrant que ce jardin anglais, c'est un jardin dégéométrisé. Dégéométrisé, c'est-à-dire qu'on va vraiment vouloir refouler tout cet idéal du jardin renaissant, qui a continué, on en parlera peut-être dans la discussion, à se développer à l'époque baroque, à l'époque classique. Et puis, au tout début du XVIIIe, eh bien, on trouve ça très lassant, les jardins géométriques, ordonnés, tracés à la règle. Et on va, vous allez le voir, avoir envie d'autre chose. Il y a un texte qui est important, c'est une lettre qui a été écrite au tout début du XVIIIe siècle, en 1709 exactement, au moment même où les jardins de Versailles continuent à être en Europe une sorte de modèle inégalé, hein, ce fameux jardin dessiné par le nôtre, dont je ne vous parle pas aujourd'hui. À ce moment-là, il y a un écrivain anglais qui est devenu un architecte, qui envoie une lettre à la duchesse de Marlborough, qui est sa commanditaire, parce qu'elle va demander de dessiner un jardin pour aller avec son château. Et donc, cet écrivain architecte, il s'appelle Van Broek, vous avez d'ailleurs une citation, vous voyez comment ça s'écrit, je vous ai mis un extrait de la lettre à la duchesse de Marlborough de 1709. Cet écrivain et architecte va développer un argumentaire pour asseoir une requête très singulière qu'il fait à la duchesse. Il y a sur le terrain du château de Blenheim, où il doit intervenir, il y a des ruines d'une ancienne abbaye gothique. Or, traditionnellement, à l'époque, ce qu'on aurait fait, c'est raser les ruines pour dégager, puis à partir de là, on redessinait un jardin. Et ce que fait Van Broek de manière très inattendue, c'est qu'il demande à la duchesse de bien vouloir conserver les ruines gothiques avec l'idée que ça peut être un ornement tout à fait intéressant dans le jardin. Alors je vous demande de lire avec moi la citation, parce que tous les mots comptent ici, c'est pas très long, mais on va voir qu'il y a un mélange d'arguments historiques et de considérations esthétiques. J'ai donc coupé largement la lettre et on retient simplement cette phrase. « Si l'espace vide où il se trouve était garni d'arbres, surtout de beaux ifs et de houx mêlés pour former un fourré, tout ce qui subsiste du bâtiment apparaîtrait entre deux amoncellements de végétation et constituerait l'un des objets les plus agréables qu'un peintre de paysage puisse concevoir. » Alors, tous les termes de cette courte phrase sont importants et appellent commentaire. D'une part, je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais retenir l'essentiel. Il y a une inversion des relations entre le paysage et l'architecture. C'est-à-dire que Van Broek voit dans le parc un bâtiment, les ruines, qu'il juge digne d'être aperçu depuis le château. Et son idée, c'est pas du tout de tirer une allée très droite et rectiligne comme on l'aurait fait à la Renaissance, forme d'axe pour mener jusqu'à lui. C'est-à-dire que ça n'est plus une conception du jardin depuis le château ou depuis la villa, ça c'est la conception Renaissance, où on essaye d'imposer l'ordre architectural sur le jardin. Là, c'est maintenant la ruine qui va être le point important, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'affranchissement du jardin par rapport au bâtiment dont il dépend et on demande de le regarder dans son être propre. Le jardin, c'est devenu un lieu de la campagne environnante qui se constitue avec son histoire. Il y a des ruines qui appartiennent à un passé ancien et qui a une configuration particulière. Deuxième chose importante, mais on voit qu'il y a un nouvel imaginaire de la nature qui se met en place. Que le mot de fourré est très important. Fourré, c'est normalement ce qu'on va éliminer dans un jardin. C'est ce qui est touffu, ça peut être même des épineux dans lesquels on ne peut pas rentrer. Et donc, au lieu de demander à ce qu'on se débarrasse de ça, Van Broek dit il faut planter un fourré tout autour des ruines. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que tout à coup, on va commencer à s'intéresser à l'irrégularité d'une nature sauvage, d'une nature qui est affranchie des règles de la symétrie, des règles de l'ordonnancement qui avaient jusqu'alors régné sans partage. Donc on va préférer le côté rustique, le côté naturel à la symétrie, à la régularité. Et là, c'est les valeurs inverses qui commencent à se mettre en place. Troisième chose importante, c'est évidemment toute expression finale, l'un des objets les plus agréables qu'un peintre des paysages puisse concevoir. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'à l'époque, ce n'est plus la relation entre le jardin et l'architecture qui est importante, mais c'est la relation entre le jardin et la peinture. On parle d'ailleurs de peintre de paysage. Donc, rapprochement entre l'art des jardins et l'art pictural, c'est là une idée reçue, un stéréotype, ce qu'on peut appeler un topos en littérature, qui est repris par presque tous les théoriciens du temps. Tout le monde va dire il faut faire un jardin en peintre, et il faut être un peintre pour faire un jardin. Alors, de fait, on fait référence à un certain type de peinture. Je vous ai d'ailleurs porté des exemples, les voici. Les peintres auxquels on pense, ce sont des peintres du XVIIe siècle qui ont été très célèbres en leur temps et qui ensuite sont apparus comme des références auréolées, si vous voulez, d'un très très grand prestige. Ce sont des peintres qu'on a beaucoup achetés et qui ont circulé. Alors le premier Poussin, c'est pas tant qu'on l'ait beaucoup acheté, mais c'est une sorte de figure très importante dans la peinture du paysage, donc un peintre français du XVIIe siècle. Et le second, c'est Claude Le Lorrain, un peintre français lui aussi installé à Rome, les deux étaient à Rome, qui a popularisé une vision assez idyllique de la campagne romaine, conforme un peu à un idéal de pastoral tel qu'on peut le trouver dans la littérature antique, c'est-à-dire une campagne calme où vous voyez les animaux, les hommes qui vivent en bonne intelligence. Et Poussin et Le Lorrain, là non plus je n'ai pas le temps, mais ont mis au point une formule que l'on appelle le paysage classique, qui est une sorte de résumé, là encore très microcosme, du monde avec la présence d'éléments naturels et la présence d'éléments architecturaux. Donc dans le paysage, vous voyez ici, il y a un pont, il y a des personnages, il y a des groupes d'arbres, il y a la présence de l'eau. Il faut qu'il y ait la nature dans tous ces éléments, et puis il faut aussi qu'il y ait cette présence humaine et ce dialogue entre la nature et l'artifice. Tout ça pour suggérer une impression de paix, quelque chose de très paisible, de très composé, de très architecturé, de très équilibré, conformément à certains critères artistiques. Voilà un autre exemple de Le Lorrain, c'est un petit peu sombre, on vous apercevez à gauche un édifice antique. Alors les peintres auxquels on pense, ce sont ces peintres-là qui incarnent une sorte d'idéal paysager. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est recréer dans l'espace de son jardin quelque chose comme un tableau de Poussin ou de Le Lorrain. Ce qui est intéressant, c'est que la conjonction de ces deux aspirations esthétiques exprimées par Van Broek met en évidence l'ambiguïté de la notion de naturel qui est revendiquée par ce nouvel art des jardins. Une nature qui est dite sauvage, mais qui est en réalité une nature très travaillée par l'homme. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on dit d'un côté on veut une nature sauvage, mais de l'autre on se rend compte que cet idéal de nature sauvage, il passe par le biais d'un modèle pictural. Donc en fait, c'est une nature qui est retravaillée par le biais de l'art. C'est une nature qu'on pourrait dire artialisée, si je reprends une catégorie qui a été proposée par un des théoriciens du paysage qui s'appelle Alain Roger. Donc, extension du modèle pictural dans la nature elle-même, au privilège d'une nature dont on dit qu'il faut qu'elle soit plus que naturelle, mais vous voyez que ce plus que naturel, c'est en fait une nature qui est très travaillée par l'art. Donc c'est l'impression d'une naturalité, mais qui passe par le biais d'un artifice extrême. Un deuxième point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est l'appellation même de ce jardin. Alors ce jardin, on l'appelle parfois jardin anglais, mais ce n'est pas le seul nom qu'on lui donne. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle jardin anglais et est-ce que cette appellation, c'est vraiment la bonne? C'est vrai que c'est en Angleterre que ce goût pour un autre type de jardin s'est d'abord fait entendre. À l'époque, on parle volontiers de jardin qui serait tracé sans niveau ni cordeau. C'est une critique du jardin à la française, enfin Versailles par exemple. Là, on veut plus de géométrie, on veut plus du compas, de la règle. On voudrait retrouver une impression de naturalité. Parler de jardin à l'anglais, cependant, c'est peut-être faire un petit peu vite. D'abord parce que ce jardin-là, il s'est répandu assez rapidement dans l'Europe entière, et donc il y a aussi des jardins en France et dans d'autres pays européens. Une autre raison, c'est qu'une des sources de ce jardin anglais, c'est la Chine. Alors ça nous paraît très loin, mais il faut que vous sachiez qu'il y a eu des récits de voyageurs en Chine qui se sont diffusés et qui ont eu énormément de succès à partir de la fin du XVIIe siècle. Parce qu'évidemment, la Chine, c'était l'exotisme absolu, peu de gens y allaient, et peu de gens étaient capables de raconter les mœurs et les usages en Chine. Alors il y a un texte en particulier, je vous en ai mis un extrait d'ailleurs, c'est la citation 10, dans le recueil que vous avez. Un texte qui est important, c'est un texte qui est écrit par un peintre qui était aussi un jésuite, qui a vécu auprès de l'empereur chinois. Il a même été son peintre pour le meilleur et le pire, parce qu'il était assez tyrannisé par l'empereur, peu importe. Et en tout cas, il a fait une description du jardin de l'empereur qui a fait énormément rêver. Alors on peut lire peut-être le tout début. Toutes les montagnes et les collines sont couvertes d'arbres, surtout d'arbres à fleurs, qui sont ici très communs. C'est un vrai paradis terrestre. Les canaux ne sont point, comme chez nous, bordés de pierres de taille tirées au cordeau, mais tout rustiquement avec des morceaux de roche, dont les uns avancent, les autres reculent, et qui sont posés avec tant d'art qu'on dirait que c'est l'ouvrage de la nature. Alors vous voyez, bon, je ne vais pas tout lire avec vous, mais ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, Attiret, donc Jean-Denis Attiret, souligne le fait qu'on est dans un jardin qui est extraordinairement sophistiqué, mais qui est à tel point sophistiqué qu'il arrive à effacer les traces de l'artifice et à se faire prendre pour naturel. Donc la phrase, la dernière que j'ai lue, est très importante. On dirait que c'est l'ouvrage de la nature. C'est-à-dire que c'est le comble de l'artifice qui est tellement maîtrisé qu'il arrive à se faire oublier et on a l'impression qu'on est dans la nature elle-même. Alors ça, c'est une source importante. Il n'y a pas simplement la réaction, comme ça arrive souvent dans l'histoire du goût, hein, contre le jardin français, on ne veut plus de ce jardin géométrisé. Il y a aussi cette récupération d'une norme extrêmement exotique à l'époque, avec ce rêve du jardin chinois. Donc on parle aussi, à juste titre, de jardin anglo-chinois, pour cette raison-là. C'est déjà un petit peu plus juste par rapport aux sources. D'autres auteurs vont préférer parler de jardin pittoresque. Ça, c'est une bonne expression, parce que pittoresque, c'est un mot qui apparaît dans le vocabulaire de la littérature, de la théorie artistique à l'époque. Si vous faites attention au mot pittoresque, vous entendrez, je ne sais pas si certains d'entre vous font l'italien ici, mais enfin vous entendez pittore, le peintre, la peinture en français. Le jardin pittoresque, ça veut dire le jardin qui est fait à l'imitation d'un tableau, c'est tout à fait ça. D'autres vont parler de jardin paysager, au sens où c'est un jardin qui veut faire oublier ses limites. D'ailleurs, ce n'est pas un jardin clos. C'est un jardin qui n'est pas cerné par des murets ou quoi que ce soit. C'est un jardin qui doit se prolonger dans le paysage et donner l'impression qu'il est un paysage. Je vous ai porté un exemple ici, qui est intéressant. On voit bien cela à l'œuvre et ça va bien avec la photo de Le Lorrain qu'on passait tout à l'heure. Enfin, je pense à d'autres auteurs, par exemple Baridon, qui, pour sa part, préfère parler de jardin de la sensibilité. Alors pourquoi ce terme? Là encore, on va aller un peu vite. Je crois que j'ai déjà débordé sur le temps, donc je vais ne pas vous ennuyer très longtemps, mais j'ai encore deux, trois choses à vous dire. Donc jardin de la sensibilité, on va dire que là aussi, il y a une mutation du goût qui renvoie à des données philosophiques plus larges. À cette époque, il y a un courant philosophique important, vous en reparlerez avec vos enseignants, qui est l'empirisme en Angleterre, hein, et qui promeut l'expérience sensible comme ce sur quoi s'appuie toute forme de connaissance humaine. Ce qu'on va favoriser dans le jardin, dans le prolongement de ces théories empiriques, c'est donc un lieu qui soit propice à l'éveil des sentiments et des sensations. On voudrait qu'au gré de la déambulation dans le jardin, en suivant les allées sinueuses, hein, vous voyez ici, elle n'est surtout pas tracée à la règle, elle est tout à fait sinueuse, le promeneur éprouve des impressions sensorielles variées et qu'ainsi, hein, il soit appelé dans sa promenade qui va ménager des effets de surprise, à éprouver des émotions constamment renouvelées. Bien sûr aussi, ça c'est à mettre en relation avec l'émergence de ce qu'on appelle le sentiment de la nature. Vous en reparlerez, je pense, aussi en cours. Il faudrait parler de Jean-Jacques Rousseau, mais ce n'est pas le seul, hein. C'est-à-dire un moment où on va penser une correspondance entre la nature et les états affectifs. Et ça, c'est assez nouveau aussi. Enfin, troisième temps de ma réflexion sur ce jardin anglais. En faire un lieu de déambulation et de méditation.
L'idée des premiers ordonnateurs de ces jardins était de créer des scènes différentes. On parle d'ailleurs de scène avec un terme qui est emprunté au vocabulaire du théâtre. C'est-à-dire de faire dans le jardin des lieux très différents qui auraient leurs atmosphères propres. Et on met à l'intérieur de ce jardin ce qu'on appelle à l'époque des fabriques, c'est-à-dire c'est des petites constructions. Il y a des fabriques de plusieurs sortes, il y a des fabriques antiques, comme vous en avez, non c'est pas le cas ici, c'est une rotonde, enfin si ça peut être antique. Vous avez des fabriques exotiques, on va par exemple mettre une petite pagode chinoise. Vous avez aussi des fabriques champêtres, peut-être certains d'entre vous ont vu le jardin de la Reine à Versailles, hein, vous avez des sortes de petites fermes un peu rustiques. En tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plusieurs lieux distincts qui correspondent à des atmosphères distinctes. L'idée étant que celui qui visite le jardin, qui se promène dans le jardin, puisse non seulement voyager dans l'espace, donc il peut aller d'un pays à l'autre, il va aller en Chine, il va aller au Japon, il va voir des tentes turques à d'autres moments. Je pense que, voilà, ça c'est les tentes turques du jardin de Carmontel au parc Monceau à Paris. Donc il va se promener dans l'espace, il va aussi se promener dans le temps. S'il est confronté à une ruine, par exemple, comme c'est le cas ici, eh bien, il va avoir, comme on le dit dans les textes de l'époque, son imagination qui se porte vers des époques très antérieures. Je voudrais m'arrêter juste un moment, très court, sur ce cas des ruines artificielles qui étaient sur le terrain du château de Blenheim, mais là, ce n'est pas une ruine existante. On s'amusait à construire des bâtiments sans les achever pour faire croire qu'ils avaient été ruinés. Vous voyez là tout le paradoxe, hein, parce qu'on brouille d'une certaine manière l'ordre du temps, c'est-à-dire qu'on édifie quelque chose sans aller jusqu'au bout, en anticipant les effets de sa dégradation future. Alors sur cette question des ruines, il y a eu beaucoup de débats. Malgré tout, la plupart des ordonnateurs de jardin recommandaient leur introduction. Et en fait, c'est parce qu'on avait cette idée que la ruine, c'était justement le bâtiment irrégulier, le bâtiment qui allait particulièrement s'adresser à la sensibilité et qui allait provoquer cette réflexion sur l'origine des temps. Donc il y avait un pouvoir affectif particulier dans la ruine qui permettait aux promeneurs tout à la fois d'éprouver de la mélancolie, de la nostalgie, « Oh, le temps passe, tout se détruit même, etc. » et d'une certaine manière le ramener sur lui-même et lui permettre de réfléchir. Pour conclure sur le 18e, alors ici c'est une fausse ruine qui est en France, hein, c'est dans le jardin d'Ermenonville, c'est près de Paris, c'est le petit temple de la philosophie, c'est dans un jardin de quelqu'un qui admirait énormément Rousseau, d'ailleurs le tombeau de Rousseau se trouve dans ce parc d'Ermenonville, un grand ordonnateur de jardin, Girardin, et il a voulu faire le temple de la philosophie en ruine pour montrer que cette discipline était à jamais inachevée. Enfin, d'une certaine manière toujours à reconstituer. Donc le jardin qui apparaît d'abord en Angleterre et qui se diffuse après en France, avec beaucoup de succès en France, correspond à un temps qui, sur le plan théorique aussi, est d'une très grande floraison. Hein. Il y a énormément d'ouvrages théoriques au XVIIIe siècle, ouvrages anglais, des ouvrages français. Il y a des débats très intéressants qui sont développés autour du jardin sur les notions de naturel et d'artifice à l'époque. Hein. Par exemple, est-ce qu'il faut préférer le naturel? Est-ce qu'il faut donner une impression de naturel? Est-ce qu'on a le droit de modifier un site profondément ou est-ce qu'il faut partir de l'existant? Des questions qui sont tout à fait intéressantes, y compris aujourd'hui. Hein. Donc phénomène européen avec des succès particulièrement importants en France et en Angleterre. Et pour finir sur le cas français, je dirais qu'on est là à la veille de la Révolution et la particularité du jardin paysager en France, c'est qu'il va volontiers prendre un tour utopique. C'est-à-dire que cette déambulation dans le temps et dans l'espace, cette réflexion sur la profondeur du temps, c'est aussi en France un imaginaire
qui se déploie sur l'axe de l'ouverture des possibles. Hein, donc ça prend cette tournure utopique. Je vous en ai porté un exemple ici, c'est dans le désert de Retz, qui est un jardin célèbre vers Marly, là encore dans la région parisienne, où donc Monsieur de Monville, qui a ordonné la création de ce parc, a fait construire cette énorme colonne en ruine, détruite, et vous voyez qu'il avait prévu de se faire établir des appartements à l'intérieur. Donc là, c'est le cas d'une fausse ruine gigantesque, habitable, qui serait un peu comme le reste d'une civilisation très très ancienne, à l'intérieur duquel on pourrait imaginer de nouveaux modes de vie. Alors on voit bien avec cet exemple du jardin paysager que le jardin, c'est une sorte de récit spatial grâce à des artefacts à la fois végétaux et aussi architecturaux. Je le répète, il y a dans tout jardin une vision idéale du rapport de l'homme et la nature. Et puis je crois qu'on a confirmé avec les exemples qu'on a développés la dimension culturelle de tout jardin, au sens non seulement où c'est une création qui résulte d'un artifice, mais aussi où c'est une création qui ressortit au domaine perceptif, puisqu'il y a à voir et à sentir dans un jardin. Voilà, je m'arrête là. J'espère qu'on va... Je crois que j'ai arrêté le micro. Ah.